Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteur dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à toutes et à tous. L'épisode du jour est dédié aux enfants hypersensibles avec Stéphanie Couturier, maman hypersensible d'un garçon hypersensible, et surtout auteur de l'ouvrage « Mon enfant hérisson » aux éditions Marabout, qui nous guide vers une meilleure compréhension de ce trait de caractère. Lors de cet entretien, nous avons échangé autour de la définition de l'hypersensibilité et bien évidemment des traits qui rassemblent ces enfants. Les sens, les émotions, le sentiment de justice, etc. L'hypersensibilité toucherait environ une personne sur trois, alors forcément ce sujet nous concerne tous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Merci de partager ce moment avec nous aujourd'hui pour parler de l'hypersensibilité chez les enfants. Votre ouvrage « Mon enfant hérisson » aux éditions Marabout a été un grand succès. Vous dites notamment en introduction « Je me croyais non fini, comme s'il me manquait la dernière couche, la pellicule de protection qui permet de vivre avec plus de douceur et qui brouille les ondes que l'autre émet ». Vous parlez évidemment de votre hypersensibilité à vous, et donc on comprend qu'une partie de votre histoire a nourri cette passion pour l'hypersensibilité. Pourriez-vous nous en dire plus sur cet intérêt que vous avez eu pour l'hypersensibilité et pourquoi vous avez décidé d'écrire à ce sujet ?
Alors c'est une longue histoire. Disons que c'est mon hypersensibilité, je l'ai un petit peu vécu comme un fardeau pendant des années, puisque je ne comprenais pas trop ce qui se passait pour moi, je me sentais vraiment différente. Je ne comprenais pas pourquoi je réagissais aussi fortement, pourquoi mes émotions étaient si intenses, pourquoi je pouvais, alors que je me sentais très gentille, mais je pouvais être très en colère et en vouloir beaucoup aux personnes qui m'avaient fait du mal, parfois de façon un peu disproportionnée. Et ça a été un long chemin presque thérapeutique pour moi jusqu'à ce que je me forme à la psychomotricité. Enfin, ça a continué pendant ma formation et puis la sophrologie et puis évidemment donc mon métier m'a amené à beaucoup travailler sur moi et à avancer. Mais ce qui a un peu changé, enfin la donne, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait de me mettre à écrire. Donc j'ai commencé à écrire pour donner des pistes, en fait, pour donner vraiment comme une boîte à outils aux parents par rapport à différents thèmes, notamment les colères, la confiance en soi. Enfin, j'ai vraiment eu envie de partager tout ce que je pouvais apporter aux enfants au cabinet. Et puis, le sujet de l'hypersensibilité n'est pas venu tout de suite. C'est-à-dire que j'ai plus axé sur les émotions, en fait, clairement sur les différentes émotions et avec une très forte envie, j'ai le mot qui allait venir, c'était une furieuse envie d'aider les enfants et de donner des pistes de compréhension aux parents pour que les parents puissent regarder leur enfant différemment. Et évidemment, tout ça a été aussi très nourri par le fait que j'ai deux garçons, j'ai deux belles filles aussi. Mais parmi nos enfants, j'ai un de mes fils, mon deuxième, qui est hypersensible et pour qui l'accompagnement a dû être vraiment différent et a dû être très. Moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je le comprenais vraiment facilement sur tellement d'aspects et en même temps. Je voyais que je n'avais pas les pistes non plus, même en tant que professionnelle de la petite enfance, je n'avais pas toujours les mots, la compréhension pour l'accompagner. Et j'ai vraiment eu envie de me pencher sur l'hypersensibilité et de pouvoir écrire, en fait, pour mon fils et trouver, enfin, tout en écrivant, mettre tout ce que j'avais compris et en même temps lui montrer que j'avais eu une grande démarche de réflexion pour l'accompagner. Il est très modifié de ce livre.
Et comment vous avez trouvé le terme hypersensible ?
Je ne saurais pas dire. Je pense que on en a, enfin, disons que j'en ai entendu parler un peu comme tout le monde.
Ouais. Et... Parce que vous parliez initialement des émotions.
Oui.
Je suppose qu'au début, enfin, vous aviez compris qu'il se passait quelque chose au niveau des émotions, mais pas nécessairement que qu'on le définissait comme hypersensible.
Oui, c'était. Alors, ce qui me venait, c'est que j'étais très sensible. Et d'ailleurs, mon fils aîné, qui va avoir 17 ans, m'a toujours dit, depuis vraiment qu'il parle quasiment, enfin, depuis qu'il est petit et qu'il échange avec moi, il m'a toujours dit, maman, tu es très sensible. Et à chaque fois, il avait des mots, je sais qu'il anticipait parfois certaines choses en disant, oui, mais maman est très sensible. Donc, comme pour prévenir que j'allais réagir différemment. Peut-être. En tout cas, ça allait me toucher, même si je n'allais pas spécialement réagir différemment, il savait que ça allait me toucher et il était très attentif à ça. Donc, je l'ai toujours su, j'ai eu le regard de mon fils aîné qui était vraiment comme un miroir. Et puis, et après, cette forte sensibilité, j'ai vite compris que c'était quelque chose qui était, alors, presque, on va dire, hors norme, qui était de l'ordre de, oui, du trait, de l'hyper, de l'ultra pour certains. En tout cas, au-dessus de la moyenne.
Et en quoi consiste l'accompagnement que vous apportez aux enfants hypersensibles ?
Alors, en tout premier lieu, c'est de leur faire comprendre, tout comme à leurs parents, à leur famille, qu'ils sont normaux, que tout va bien. Et que ce qui paraît être une difficulté parfois est en fait une force qui est mal gérée pour l'instant, qui n'est pas bien maîtrisée. Ce qui fait que oui, c'est dur, c'est vécu avec trop d'intensité et les réactions ne sont pas toujours appropriées pour l'entourage. Elle est toujours pour l'enfant, mais ne va pas l'être pour l'entourage. Et c'est ça qui crée la difficulté. Et c'est vraiment d'essayer de, en tout premier lieu, c'est de rassurer l'enfant et lui dire que tout va bien et qu'au contraire, la démarche pour laquelle en fait ces familles me consultent, je suis plutôt en train de dire quelque part, mais c'est génial, c'est le ticket d'or, c'est super, tu as un don, c'est un don. Mais comme tout super-héros, le don, on l'a pas comme ça en claquant des doigts, on ne l'utilise pas en claquant des doigts. C'est-à-dire que ce don, il doit s'apprivoiser pour pouvoir l'utiliser correctement.
J'aime beaucoup cette image du ticket d'or.
Oui, c'est vraiment c'est la plaque de chocolat de Willy Wonka.
Ouais. Et alors, on a beaucoup parlé d'hypersensibilité, mais on ne l'a pas encore définie. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste l'hypersensibilité ?
Alors, l'hypersensibilité, c'est un trait de tempérament. Il faut vraiment avoir en tête que ce n'est pas un trouble. Et c'est un trait de tempérament qui a une grande part d'hérédité. C'est une façon d'être particulière, on va dire, qui fait vivre la vie avec intensité. Et, en fait, on a moins de filtres par rapport à, on va dire, la norme de la population. Donc, on a moins de filtres pour recevoir tous les stimuli de la vie. Et on imprime, en fait, tous ces stimuli avec vraiment cette intensité. Donc c'est une force clairement très vite, ça peut être une force si l'environnement est adapté et soutenant. Mais par contre, ça va être une difficulté si l'environnement ne l'est pas. Et ça, il y a un livre qui est vraiment exceptionnel qui montre bien, enfin avec l'appui des neurosciences, c'est L'orchidée et le pissenlit de Thomas Boyce, où il explique justement la place et l'importance de la réaction de l'environnement par rapport à l'hypersensibilité.
Et est-ce que vous pourriez nous donner quelques traits de caractère communs, même si je suppose qu'il y a une multitude d'hypersensibilités, mais quelques traits qui pourraient rassembler ces enfants ?
Oui, alors en effet, il faut vraiment avoir en tête qu'il y a autant de formes d'hypersensibilité que de personnes hypersensibles, parce qu'on a tous sa propre façon d'être hypersensible. Certaines personnes vont avoir un développement des sens qui est très particulier au point de justement voir les couleurs différemment, au point d'entendre les sons différemment et d'ailleurs de pouvoir être extrêmement gêné dans des environnements sonores. Certains, ça va être sur le plan gustatif, avec des enfants qui vont avoir, par exemple, des difficultés à goûter, des difficultés à manger certaines textures. Donc, je parle des enfants parce que on le retrouve tout de suite. Voilà, ça va se placer différemment comme ça, mais ça va être aussi, on peut, par exemple, je suis hypersensible, néanmoins, je n'ai pas de particularité sur le plan sensoriel. Si ce n'est une au niveau tactile, où j'aime particulièrement les choses qui peuvent justement serrer le corps. Ça m'apporte vraiment de la joie. J'ai remarqué ça. C'est vraiment c'est une sensation très particulière, mais ça vient me donner une émotion, voilà, très particulière. Mais il y a pas mal, par exemple, de personnes qui, au contraire, détestent avoir quelque chose qui va serrer le corps. Il y a pas mal d'enfants, et c'est d'ailleurs une démarche qui est assez classique chez les parents qui viennent parce que c'est l'enfer le matin pour habiller leur enfant. Parce que les chaussettes, c'est très compliqué. Enfiler des chaussettes, c'est très compliqué. Il n'y a qu'une paire de chaussettes qui va fonctionner, on va dire à peu près, parce que l'élastique est un peu lâche. C'est pareil pour les culottes. Ça va être avec certains aussi, certains t-shirts, certaines matières. Ça, on le retrouve assez facilement, cette sensibilité-là. Donc, il y a évidemment, là, je viens d'en parler, c'est tout ce qui a trait au sens, en tout cas, où les sens vont être sollicités. Mais ce qui revient beaucoup, c'est cette intensité émotionnelle. Les émotions, généralement, sont vraiment fortes, que ce soit les colères ou les tristesses, même les joies qui vont être débordantes parfois. Elles sont aussi labiles. Ça, on passe très vite d'une émotion à l'autre. C'est comme un kaléidoscope, en fait, émotionnel intérieur. C'est-à-dire que très vite, la lumière, la parole du parent ou du copain, plus une sensation justement avec son vêtement, quelque chose va créer, c'est comme si on bougeait un petit peu le kaléidoscope et va créer de jolies couleurs, un beau pattern qui fait du bien, qui réchauffe le cœur et ça peut mettre par exemple en joie ou en tout cas une sérénité profonde. Et puis hop, ça peut avec un tout petit mouvement un courant d'air, une personne qui hurle dans la rue à côté, un chien qui aboie, enfin quelques sensations autour qui sont perçues par tout le monde, mais qui vont être traitées comme des informations annexes. Pour cet enfant ou pour cette personne, ça va être traité, en fait, tout va très vite bouger le pattern du kaléidoscope. Ça va se teinter tout de suite de sombre, on va dire, en tout cas d'émotions vraiment désagréables, et ça peut créer tout de suite une peur intense, par exemple, parce que plusieurs choses se sont tout de suite imprimées chez la personne. Plusieurs stimuli. Donc cette intensité émotionnelle, on la retrouve vraiment quasiment pour tout le monde. Ce qui va changer, c'est la façon de l'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a les personnes qui vont être un peu plus extraverties, donc tous ces enfants qui vont crier leur colère, qui vont, entre guillemets, pleurer pour un rien, pour l'entourage évidemment, parce que c'est jamais pour un rien, exploser sans raison. Et puis, il y a les enfants qui vont, au contraire, ressentir tout ça, mais ne pas l'exprimer parce qu'ils sont plus introvertis, voire très introvertis, mais ça va s'exprimer différemment, avec des plaques d'eczéma, avec une toux régulière, avec des difficultés de respiration. Enfin, voilà, ça va s'exprimer, mais différemment. Ce que l'on retrouve aussi, on a parlé des sens, j'ai parlé de cette intensité émotionnelle, ce que l'on retrouve pour beaucoup, c'est cette sensation d'être différent. Donc pour moi, où je parlais de cette sensation d'être née non finie, qu'il me manquait cette pellicule de protection, l'enfant, en fait, généralement, reçoit, l'enfant hypersensible reçoit beaucoup d'informations et réfléchit beaucoup par rapport à ces informations et ce qu'il ressent. Donc c'est un enfant, je parle là de l'enfant, mais l'adulte, c'est pareil, qui analyse beaucoup. Donc, ça donne la sensation d'être comme dans un hall d'observation, en fait. C'est un enfant qui peut se sentir un peu bizarre, différent, parce qu'il va tout analyser. D'ailleurs, cette sensation, ça peut induire un manque de confiance en soi, parce qu'on va se comparer. On va se dire, il y a ça, mais j'ai bien vu. D'ailleurs, dans mon livre, à la fin, j'interroge 5 personnes et il y a Joy qui explique, donc qui est journaliste beauté, qui explique qu'elle... quand elle était petite, elle regardait les autres beaucoup, beaucoup. Et pendant des années, les années passées à l'école, elle analysait et surtout, elle se disait qu'elle devait comprendre quelque chose pour être à l'aise, qu'elle devait chercher les clés, en fait, qu'il y avait quelque chose à comprendre, comme un mot magique, comme vraiment quelque chose qui allait déclencher cette façon d'être à l'aise qu'avaient les autres, qu'elle n'avait pas. Donc, je connais Joy et je vois, puisqu'il y a vraiment une part d'hérédité, elle a une de ses filles qui est comme ça et qui aujourd'hui, pareil, est dans cette cours de classe, enfin, de cours de récréation ou dans le hall d'entrée, elle est vraiment, vraiment en observation. Et c'est doux quelque part, et parce qu'elle peut l'accompagner sur ce sujet, parce qu'elle connaît, et en même temps, c'est pas la même chose. Parce que c'est pas, les réflexions ne vont pas être les mêmes non plus. Parce qu'évidemment, ça se teinte de notre personnalité, de qui l'on est. Voilà. Mais cette sensation d'être différent, d'ailleurs, elle revient chez les 5 personnes que j'ai interrogées. J'ai interrogé des adultes pour montrer un peu des pistes de ce qu'on pouvait faire de cette hypersensibilité, comment elle se développait, comment elle traversait l'adolescence également, et à quel point elle pouvait être une force dans la vie d'adulte après. Et à chaque fois, on retrouve cette sensation d'être différente qui part de l'enfance. Ensuite, il y a aussi un trait qui est très commun, c'est une conscience aiguë de l'autre, donc avec une empathie très forte. C'est quand on est hypersensible, on est généralement un très bon camarade, on a besoin d'authenticité dans la relation, les relations futiles, c'est pas intéressant du tout. Ça peut être aussi, enfin, différent dans le sens où on peut ne pas avoir d'amis fixes, papillonner pour avoir besoin de chercher quelque chose d'authentique pour soi parce qu'on ne trouve pas, ou alors au contraire être dans une relation exclusive avec un autre enfant parce que on a trouvé un peu comme une âme sœur où on se comprend. Et alors là, on a apaisé, on n'a plus besoin des autres, on a la bonne relation. Ce sont souvent des enfants qui se sentent plus à l'aise avec les adultes. Parce que avec les adultes, ils peuvent avoir aussi des discussions plus réfléchies, des discussions aussi sincères. Et ça va être parfois recherché par certains enfants hypersensibles. Et puis, ce qui peut revenir aussi beaucoup, c'est la notion d'injustice. C'est vraiment le cheval de bataille souvent des personnes hypersensibles, mais il faut avoir en tête que c'est une notion d'injustice qui est quand même très personnelle, et donc sont généralement des enfants qui ont besoin de justice et d'équité, mais qui peut amener à certaines choses particulières. Par exemple, je donne souvent l'exemple parce que ça m'a marqué, ça a fatigué un peu le climat familial de mon fils qui avait besoin d'équité dans tout. Et donc, il a eu une période où c'était vraiment fatigant. Et jusqu'à, voilà, si un soir, on faisait une soirée, un apéritif en famille, il avait besoin d'avoir le même nombre de chips dans son bol. C'était pas possible que ce soit autrement. Il fallait que ce soit pareil pour tout le monde. Et c'était ça, je l'ai fait. J'ai compté les chips. Et ce sont des périodes qui ne sont pas forcément faciles. On peut crier au caprice. Ce n'est pas du caprice, c'est une forme de justice qui est très personnelle. Enfin, voilà, ce besoin d'équité coûte que coûte. Et puis, ça peut aussi donner des situations un peu particulières. Par exemple, j'ai aussi eu au cabinet un petit garçon qui était très agressif avec un autre, par exemple, et la maman ne comprenait pas. Elle me disait, mais je ne comprends pas, mon fils est doux comme un agneau à la maison, il fait attention, il ne faut pas marcher sur les fourmis, enfin, il fait attention à tout, à toute forme de vie, il est vraiment très doux et il a même une conscience de la vie et de la nature qui est quand même très forte. Je ne comprends pas que je puisse avoir des mots en me disant qu'il a frappé un tel, qu'il a été difficile. Et en fait, en creusant un petit peu le sujet, il s'avère que la personne qui l'agressait, c'était lui-même un agresseur sur d'autres. C'est-à-dire que cet enfant, enfin l'autre enfant, était très méchant avec un de ses copains et l'humiliait régulièrement avec des petites phrases, etc. Et pour cet enfant, c'était insupportable. Et en fait, il voulait lui rendre la monnaie de sa pièce. Il voulait le punir. Et il s'est fait grand justicier. En voulant être un grand justicier, il est lui-même devenu agresseur. Et ça part de notion d'injustice.
C'est fou. Vous dites aussi que le monde intérieur de l'enfant hérisson est une véritable caverne d'Ali Baba. Pourquoi ?
Parce que sont généralement des enfants qui sont vraiment, enfin déjà qui ont un puits de créativité incroyable. Alors, ça peut ne pas se voir en tant qu'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants hypersensibles qui sont tout de suite très créatifs et qui ont, bon, déjà, en fait, tout est nourri. C'est-à-dire que c'est un monde émotionnel qui est très, très développé. Donc, ce sont des enfants qui vont être touchés par beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'événements de la vie, en tout cas d'informations, qui vont venir stimuler un peu les émotions de l'enfant. Donc l'enfant va se réveiller, va trouver que cette musique ou que ce mot, cette phrase ou ce mot dans cette phrase est vraiment très beau, va être touché et emporté. Bon, néanmoins, il va pas forcément en faire des poèmes. Moi, je sais que j'ai découvert que j'avais de la créativité en moi, mais tardivement. J'ai envie de dire il y a 10 ans. J'ai 43 ans. je ne dessinais pas, je dessine très mal, je suis toujours au bonhomme mathématique. Enfin, ouais. Je ne dessine pas, donc je faisais pas de peinture, je ne chantais pas, j'ai fait du piano, mais j'étais pas très bonne. Voilà, j'avais pas de don particulier artistique qui me portait. J'avais en tête vaguement des petites histoires, mais pas du tout au point d'en écrire ou quoi que ce soit. Enfin, je ne savais pas que j'étais créative, vraiment pas. Et ça, c'est venu plus tard. Et c'est comme si, par contre, à partir du moment où j'ai ouvert les portes, c'est comme si j'avais découvert un monde entier qui était très présent en moi depuis toujours, mais qui était bien vivant et bien présent. Et je n'avais plus qu'à me servir. Donc, je le vois comme vraiment cette créativité. Parfois, j'en parle aux patients comme une belle endormie. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, des enfants qui me disent, ah non, non, mais moi, je sais pas faire ça, ou je sais pas, j'aime pas du tout dessiner, ou je n'aime pas. Parce que quand on parle créativité, on pense souvent au dessin, on va penser presque au chant, en tout cas à une expression artistique particulière. Et il y a pas mal d'enfants, en tout cas, moi j'en faisais partie. Bon, bah, moi j'avais pas ces dons-là, donc je me retrouvais un petit peu coincée, je me sentais nulle en fait. Et puis j'avais surtout conscience, je regardais les autres dessiner et je me disais, ah là là, mais comment elle a pensé ? J'ai le souvenir encore d'une de mes amies en grande section de maternelle, où elle avait fait un bonhomme de profil. Et je me dis, mais comment elle a eu l'idée de mettre le bonhomme de profil ? Et surtout, comment a-t-elle vu que de profil, il fallait faire ces traits-là ? Et ça, en fait, j'ai ce souvenir très précis d'analyse des autres, de ce que produisaient les autres, et donc d'une comparaison. Et donc, quand je parle de cette puissance intérieure, de tout ce que l'on a en soi qui est très riche, de cette richesse intérieure qui est présente chez toutes les personnes hypersensibles. Il faut juste avoir en tête que ce n'est pas toujours accessible tout de suite. C'est là, ça vibre, ça s'éveille à certains moments. Parfois, c'est très très présent. Hein. Par contre, moi, j'ai des enfants qui sont qui l'utilisent déjà complètement à 6-7 ans. Hein. Enfin, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et il faut pas se dire, moi, ça, je l'ai pas. C'est juste, éventuellement, ça, je ne l'ai pas encore découvert.
Et alors, comment est-ce qu'on accompagne des enfants hypersensibles lorsqu'on est parent et qu'on se rend compte que son enfant est hypersensible et qu'on n'a pas envie que cela devienne quelque chose de difficile à vivre, mais comme vous le dites, plutôt d'une force et d'un atout. Quelle posture il faut adopter ?
Alors, je pense que ce qui est vraiment très important, c'est de commencer par porter un nouveau regard sur lui. Et un regard bienveillant, accueillant, et avec cette idée que les émotions qui sont parfois exprimées de façon très forte et qui peuvent déranger l'environnement, se dire que, ok, dans l'expression, ça peut déranger l'environnement, mais surtout, il faut se dire que cette expression, elle est à la hauteur de ce que ressent l'enfant. Et donc, il faut revenir tout de suite à ce que ressent l'enfant. Donc, parfois, évidemment, c'est pas adapté, c'est dans un supermarché, c'est dans une réunion familiale, alors qu'on a envie que l'enfant soit parfait, ou devant l'école, quand toutes les familles sont bien peignées, que tout va bien, et que là, chez nous, il y a une crise, et que on est parti, on n'a pas pu lui enfiler, notre enfant encore son pas de pyjama, enfin, je pense à ma petite voisine, qui a fait une journée en pyjama à l'école. en primaire, je crois qu'elle était au CP, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Mais voilà, ça arrive et c'est pas grave. Il faut vraiment se dire qu'on est là pour essayer de comprendre quelle est cette intensité émotionnelle ressentie. Il faut vraiment observer son enfant pour mieux le comprendre, mieux appréhender son comportement. Je vais vous donner une anecdote qui a déclenché beaucoup de choses en fait dans notre famille. J'en ai déjà parlé, mais c'est par exemple mon fils donc qui est hypersensible, Orphée, qui très souvent disait une crise venait et je sentais qu'il était débordé par ses émotions et il me disait mais écoute-moi maman, écoute-moi, et c'était en boucle écoute-moi. Et alors avec mon mari, c'était reparti sur les écoutez-moi, on fait ah non, c'est reparti. Enfin, c'était pour nous, c'était un peu l'enfer parce que on n'avait pas de solution. On savait que quand ça se déclenchait, on en avait pour au moins une demi-heure. Et que quelle que soit, en fait, mon intervention, quelle que soit ma solution apportée, ça n'allait pas marcher. En tout cas, jusqu'à un certain moment. Mais j'ai tout fait, hein. J'ai vraiment, je me suis fâchée, avec la fatigue. J'ai été aussi tellement fatiguée un jour que je pleurais avec lui. Et surtout, donc je répondais, mais je t'écoute Orphée. Donc j'ai tout fait comme il fallait aussi. Je lui prenais les mains, je me mettais à sa hauteur, je lui disais, je t'écoute Orphée, qu'est-ce que tu as à me dire? Enfin, j'étais vraiment dans une écoute empathique. J'essayais de comprendre ce qui se passait pour lui. Or, c'était un disque rayé, c'était très difficile, jusqu'au jour, mais ça a duré des mois, hein, des mois, jusqu'au jour où je lui ai dit, je t'écoute Orphée, j'écoute que ce que tu ressens, c'est très très difficile, j'écoute, et en fait je reprenais j'écoute, dans le écoute, je commençais toutes mes phrases par j'écoute, j'écoute que tu es très malheureux parce que quelque chose te dépasse, j'écoute que tes émotions sont très fortes et très dures à vivre, j'écoute que tu ne sais pas quoi faire, et que tu as besoin de mon aide pour sortir de là. J'écoute que je ne suis pas souvent à la hauteur pour réussir à t'aider dans ces situations. Et je lui disais, j'écoute, et je continuais les phrases en disant tout ce qui me venait par la tête à ce moment-là. Ça a été la dernière fois qu'il y a eu le « écoute-moi ». À partir du moment où Orphée s'est senti compris et entendu dans cette crise émotionnelle, ça a été fini. C'était vraiment, on a tourné la page. Et depuis, c'est complètement différent.
Ah, c'est incroyable.
Donc, voilà, il faut vraiment se dire, enfin, c'est porter ce nouveau regard, tout faire pour comprendre son enfant. Et puis aussi avoir l'humilité de se dire et de lui dire qu'on n'a pas toujours les réponses, mais qu'on essaie de le comprendre et qu'on essaie de le regarder, d'observer, de comprendre ce qu'il ressent, pour essayer d'apporter des solutions. Donc, c'est vraiment être bienveillant. Il faut faire en sorte que notre enfant garde toujours, toujours une bonne image de lui. C'est important parce que sinon, on se construit avec une étiquette. Moi, j'ai grandi, j'ai des parents pourtant qui sont super, hein, mais bon, avec l'époque, et puis j'ai fait des crises dans la rue, je me suis roulée par terre. Enfin, j'ai fait des choses qui les dépassaient, qui me dépassaient, mais qui les dépassaient aussi complètement. Mais j'ai grandi avec une étiquette, j'étais chiante, j'étais celle qui mettait la zizanie partout, j'étais celle à qui, ça c'est mon père qui me disait ça après, à qui on ne pouvait pas parler, parce qu'en fait, oui, j'étais trop sensible, je prenais les choses très à cœur tout de suite. Donc c'est vrai que c'était dur. Voilà, j'ai plein d'étiquettes comme ça, de post-it, j'ai grandi avec des post-it sur moi qui était vraiment désagréable. Et j'ai eu un peu à cœur, moi j'avais à cœur de dire, mais au fond de moi je me disais, mais pourtant je suis gentille, je me sentais mais tellement gentille comparée à ce que je pouvais percevoir autour de moi. Mais mes réactions étaient un peu disproportionnées, on va dire, par rapport à ce que l'environnement enfin attendait. Et avoir en tête que quoi qu'il arrive, on fait en sorte que nos enfants gardent une image positive d'eux-mêmes. Si on fait en sorte qu'ils gardent une bonne estime d'eux-mêmes et qu'ils gardent confiance en eux et en la vie. C'est bravo, tu vas y arriver. Bah oui, oui, il y a une grande colère qui est passée par là, mais c'est pas grave, tu as réussi à la faire partir ou ensemble, on a réussi à l'apaiser. C'est extra. Et c'est ça le plus important. C'est vraiment de rester sur ce regard, en fait, sur cette façon d'agir. Et donc, d'avoir aussi en tête de faire très attention à ne pas confondre son enfant et l'émotion. Parce qu'un enfant n'est pas colérique. Un enfant est traversé par des émotions. Un enfant n'est pas peureux. Un enfant est traversé par beaucoup de peur. Enfin, il faut vraiment, il y a l'enfant, sa personnalité, sa façon d'être et les émotions qu'il traverse. Si on garde ça en tête, alors on ne va pas l'abîmer, on ne va pas lui mettre d'étiquette parce qu'on est tous traversés par toutes ces émotions.
Ah ouais, c'est super. Et j'avais une dernière question à vous poser avant qu'on arrête cet entretien passionnant. On entend souvent un lien entre l'enfant hypersensible et l'enfant à haut potentiel. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus ?
Oui, bah c'est un lien en effet qui existe, mais qui n'est pas comment dire, qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a, ce n'est pas parce qu'on est hypersensible que nous sommes à haut potentiel. Il y a énormément d'enfants hypersensibles, de personnes hypersensibles qui ne sont pas à haut potentiel. Par contre, il y a un pourcentage quand même plus élevé chez les personnes à haut potentiel. Il y a quand même plus de personnes hypersensibles, voilà, que dans la population générale.
Oui. Et d'ailleurs, je voulais vous demander combien de personnes sont touchées par l'hypersensibilité.
Alors enfin, les études évoluent parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on parlait d'une personne sur cinq. Vraiment, tout, enfin, même encore moi dans l'écriture de mon livre, c'était les études qui étaient sorties, c'est les professionnels que j'ai interrogés, enfin, tout le monde était sur les dernières études sorties et c'était une personne sur cinq. Or là, il y a une dernière étude qui est sortie et qui parle d'une personne sur trois. Alors après, je pense qu'il y a, parce que j'en parlais justement avec Camille Benoît qui est pédopsychiatre et qui lit justement toutes les études qui sortent, et on en discute beaucoup à chaque fois, et elle me parlait du fait qu'il y a aussi une différence entre, c'est-à-dire que la forme de sensibilité, c'est-à-dire que finalement on passe de une population qui pourrait être un peu hyposensible à normosensible à hypersensible, et donc c'est quelque chose qui évidemment qui est dans une forme de un peu de linéarité, et oui, peut-être qu'avec les études, si on en fait on parle pas de cette forme d'hypersensibilité vraiment qui va être tout en haut du panier, j'ai envie de dire, dans le versant de la sensibilité, mais qu'à partir du moment où on dépasse juste le seuil de la normosensibilité, alors on bascule dans une sensibilité qui est, voilà, en excès.
Ok, super clair. Merci beaucoup Stéphanie pour ce moment.
Merci
autour de l'hypersensibilité. Je suis super heureuse d'avoir pu le couvrir avec vous aujourd'hui. Encore bravo pour tout ce que vous faites, pour tous ces enfants hypersensibles, et à bientôt, j'espère.
Merci, avec plaisir.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.